Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Donc nous avons passé un bon moment avec notre Seigneur par l'intermédiaire de son serviteur Enoch. Donc nous demandons au Seigneur aussi, puisse-t-il aussi bénir cette seconde partie. Je vais vous inviter à lire un texte qui a déjà été touché ce matin. C'est Matthieu, le chapitre 22. Et je vais faire la lecture à partir du verset 1er. Donc Matthieu, le chapitre 22, à partir du verset 1er. Donc l'auteur nous dit ceci. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Le verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Prions. Oui, Seigneur, ce matin, nous nous trouvons en ta présence. Et nous voulons déjà te dire merci pour la première partie que tu nous as permis de passer. Cette première partie où nous étions venus te donner l'honneur qui t'est dû parce que tu es Dieu, t'adorer parce que tu es notre Dieu, te dire aussi que nous voulons que tu domines dans nos vies parce que tu es Dieu et cette gloire-là, tu la mérites. Et nous voici maintenant dans cette deuxième partie, partie où nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons être encouragés par toi, afin d'aller de l'avant, dans ces temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons. Alors Seigneur, ce matin, je veux simplement être malléable entre tes mains. Je veux simplement être un instrument entre tes mains. Je veux vraiment, Seigneur, te demander de m'utiliser par ton Saint-Esprit. Tu vois ma faiblesse, je ne suis que faiblesse, Seigneur. Mais je te demande au nom de Jésus que tu puisses agir par ton Saint-Esprit afin que je puisse m'exprimer et donner l'honneur qui revient à Jésus-Christ. Alors bénis encore chacun de nous et donne-moi encore ce matin à parler de toi et que vraiment ton Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait « L'homme sans habit de noces ». Dans notre texte de ce matin, il est question d'un roi qui fit des noces pour son fils. Et ce roi va demander à ses serviteurs d'aller appeler les invités à ce festin. Mais tous, sans exception, devaient être revêtus d'un habit de noces. C'était l'ordre du roi. Mais un homme va se présenter sans cet habit. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur cet homme-là. Que pouvons-nous dire de cet homme-là? Alors, un premier point que j'ai relevé, c'est qu'il a répondu à l'invitation. Il a répondu à l'invitation du roi. Contrairement à ceux qui avaient reçu une invitation personnelle. Donc, le roi organise des noces, les noces de son fils. Il veut que son fils, celui-ci, soit honoré, qu'il soit entouré de beaucoup d'invités. Pour cela, ce roi établit une liste d'invités. Je vais dire une liste personnelle. Mais c'est un refus. Les invités se montrent indifférents. Le texte nous apprend que ce roi va renouveler l'invitation et envoie encore ses serviteurs, disant que le festin est prêt. Mais c'est un rejet catégorique. Et ces gens vont même aller plus loin. Ils vont se conduire mal vis-à-vis de ses serviteurs. Et ils vont même tuer ses serviteurs. Le roi va sévir. Et ensuite, il va envoyer une troisième fois ses serviteurs. Mais avant, il va mettre cette liste de côté, cette liste préétablie. Et il va envoyer ses serviteurs dans les rues, dans les carrefours, afin d'inviter aux noces autant de gens qu'il trouverait. Alors c'est ainsi que notre homme répond à l'invitation et que notre homme se trouve dans la salle de noces. Dans le premier verset de notre texte, le chapitre 22, il nous est dit, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Donc nous avons affaire dans ce texte à une parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? J'ai cherché une définition. Alors j'ai trouvé une parabole est l'une des méthodes de l'art oratoire illustrant une vérité morale ou religieuse par une comparaison tirée de la vie courante. Alors j'ai simplifié. Donc une parabole illustre une vérité morale ou religieuse. Alors la première question qui m'est venue est donc quelle est cette vérité morale ou religieuse dans ce premier point? La Bible nous dit dans Jean 3, le verset 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu veut que son Fils soit honoré et se a appelé le peuple juif à la repentance. Il les a appelés au salut, mais ils ont refusé. Le premier appel de notre texte, le verset 3, peut représenter lorsque Jésus était sur terre et il appelait le peuple d'Israël à la repentance. Venez au salut. Mais le peuple d'Israël a rejeté le Messie. Le deuxième appel, le verset 4, peut représenter, donc après la mort de Jésus, lorsque les apôtres, dans les Actes, appelaient aussi le peuple juif à la repentance. Mais là aussi, ils ont rejeté la parole de Dieu et ils ont même tué. Nous avons l'exemple d'Étienne, qui a été lapidé. Tous ces hommes de Dieu qui ont souffert, qui ont été méprisés, tués par rapport à l'Évangile. Et dans Acte 28, le verset 27 à 28, nous dit ceci, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. » De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et la dernière phrase dit ceci, sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Et donc le verset 9 que nous avons lu tout à l'heure parle à ce moment-là de l'appel aux nations. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc ce verset-là peut représenter donc l'évangile prêché aux nations. Donc nous avons vu là le premier point que j'ai noté. Donc cet homme a répondu à l'invitation du roi, contrairement à ceux qui avaient été invités, qui avaient reçu une invitation personnelle. Que pouvons-nous dire encore de cet homme-là? J'ai noté un autre point. Il était dans la tente des noces. Il était attablé avec les convives. Lorsqu'on est dans la tente des noces, c'est un moment de joie, c'est un moment festif. Lorsqu'on est dans une salle et on attend que les noces commencent, c'est la joie qui prédomine. On est heureux. On s'en trouve dans une atmosphère joyeuse. En règle générale, les tables sont dressées. Tout est prêt. Tout est bien décoré. C'est la joie. On est heureux. On ne va pas dans un mariage et puis on boude. En règle générale, quand on va dans un mariage, on est heureux. Et on n'a qu'une hâte. C'est que les époux puissent arriver afin de pouvoir se réjouir avec les jeunes mariés, avec les mariés. Quelle est la vérité morale et spirituelle pour ce point-là? Ce point-là peut représenter l'homme qui se dit prêt pour aller au ciel, mais qui ne l'est pas. Ça peut représenter un homme qui fréquente l'ambiance chrétienne, qui baigne peut-être dans l'atmosphère chrétienne. Cet homme peut avoir l'attitude extérieure du chrétien. Ça peut être un chrétien de nom. On peut même dire qu'il se sent bien avec les chrétiens. Il aime la musique, il aime les chants, il aime cette convivialité. Mais la parole de Dieu nous montre que ce n'est pas suffisant. Il faut aller encore plus loin. Il faut faire une rencontre personnel avec Jésus-Christ. Dans Hébreux, je vais simplement lire pour vous, ce n'est pas la peine de prendre. Dans Hébreux 4, le verset 13, il nous est dit ceci. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre des comptes. Donc Dieu voit tout. Donc cet homme peut, comme je l'ai dit, être une personne qui baigne d'une atmosphère chrétienne. Il était attablé avec les autres convives. Ça c'est le deuxième point que j'ai relevé. Que pouvons-nous dire encore de cet homme-là? Eh bien, cet homme-là, il était différent des autres convives. Il était différent. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il n'avait pas cet habit de noces comme les autres. La gloire du roi, l'autorité du roi, le statut du roi, l'honneur qui était dû au fils, tout cela démontrait que tous devaient avoir un habit de noces par rapport à l'autorité du roi, par rapport à son statut, ils devaient être revêtus de cet habit de noces, montrant leur respect pour ce roi-là. Et puis ça peut se comprendre. Lorsqu'on a une audience avec une autorité quelconque, on doit mettre une tenue adéquate. On ne va pas aller voir un chef d'État, par exemple le président de la République, et puis on y va avec un vêtement, on fait le jardinage. on va mettre un vêtement adéquat, parce que le protocole veut quand même, et puis le bon sens veut aussi qu'on soit vêtu correctement. Ça ne viendrait pas à l'idée d'aller voir le président avec une tenue, on fait du jardinage avec. Donc, ça montre bien que, devant la présence du roi, tout le monde devait avoir un habit approprié. Donc, la gloire, l'honneur du roi, son autorité exigeait des invités une tenue correcte. Et c'est pour cette raison qu'un habit de noces était nécessaire. On se rend compte aussi que l'invitation a été faite aussi un peu à la hâte, parce que lorsqu'on lit le contexte, on voit que la liste d'invités avait été faite, et puis au verset 8, il nous est dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés, n'en étaient pas dignes. Alors il y a un dilemme. Les noces sont prêtes, tout est préparé, le repas, tout est là, mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'invité. Parce que les convives n'avaient pas été, ils n'ont pas été dignes d'être là. Donc on se rend compte que là, le roi va demander aux serviteurs d'aller, et vous trouvez, toutes personnes que vous trouvez, vous leur dites de venir. Mais ces gens-là, ils ont été pris un peu à la hâte, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais le roi avait tout prévu, c'est pour cela aussi que il avait déjà le vêtement approprié pour ces gens qui viendraient à la hâte. Donc l'invitation ayant été faite à la hâte, pour certains, mais le roi avait pourvu, et c'est pour cela que le roi procurait aussi ce vêtement. Quelle est la vérité morale et religieuse pour ce point-là? Dans Galates 3, le verset 27, nous lisons ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et c'est ça l'habit de noces. C'est revêtir Christ. Accepter Jésus pour son sauveur personnel. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et c'est cela l'habit de noces. Dieu nous a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils Jésus-Christ. Jésus a tout fait pour nous. C'est vraiment extraordinaire cet amour que ce grand Dieu a pour nous. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 30, il nous est dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Jésus a tout fait pour nous. Mais quel amour! Quel amour ce grand Dieu-là pour nous! Par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, c'est dans le premier chapitre, que nous tous qui avons accepté Jésus, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui est cette partie de Dieu qui est en nous, Dieu va faire ce Saint-Esprit travailler en nous. Et ce Saint-Esprit, pardon, va parfaire cette sagesse en nous. Il ne va pas faire cette sanctification, c'est un travail continuel, jusqu'à ce que nous soyons plus de cette terre, mais le Saint-Esprit va œuvrer en nous pour nous transformer à l'image de Christ. Mais tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. Jésus l'a accompli pour nous. Donc, lorsque nous revêtons l'habit de noces, revêtir l'habit de noces, c'est simplement accepter Jésus pour notre sauveur personnel. Donc, cet homme était différent des autres convives. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il était différent aussi des autres convives. Pourquoi encore? Parce qu'il n'honorait pas le roi, en fin de compte. Son attitude, montrait son mépris pour le roi. Cet homme a refusé l'offre généreuse du roi. En fin de compte, il a insulté ce roi-là en venant à sa présence avec son propre habit. On se rend compte que finalement, cet homme-là est allé encore plus loin que les invités. Les invités n'ont même pas pris la peine de venir. Ils ont dit « ça ne m'intéresse pas » et voilà. « Tu nous importunes avec tes noces, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas de noces, on ne veut pas de tes noces. Garde tes noces. » Mais celui-là, il est venu, mais il est venu avec ses habits. Quelle est là aussi la vérité morale et religieuse qu'on doit en tirer? Eh bien, cet homme-là représente ceux qui se présentent devant Dieu avec leur propre justice et qui rejettent le sacrifice de Jésus-Christ. Dans Actes 4, le verset 13, il nous est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Cet homme-là peut représenter un religieux avec de grandes qualités morales. Ça existe, hein? Vous avez des gens qui ont un sens moral très développé, qui sont très respectueux. Vous n'entendrez pas des propos insensés de leur bouche, vous ne verrez pas des mauvaises actions de leur part. Tout ça, c'est très bien. Mais malheureusement, la Bible nous dit que ça ne suffit pas pour nous faire entrer au ciel. Même si nous commettons de bonnes œuvres, même si nous aidons ceux qui sont en difficulté, notamment ceux qui sont dans la rue, il y a des gens qui sont comme ça, qui aident beaucoup. Mais malheureusement, la Bible nous dit clairement que nos bonnes œuvres ne nous feront pas entrer au ciel. C'est l'homme qui se dit prêt pour le royaume de Dieu, mais sans Christ. C'est l'homme qui croit qu'il sera reçu au ciel, pardon, avec sa propre justice. Je voudrais faire une parenthèse. Pourquoi nous ne pourrons pas entrer au ciel avec notre propre justice, avec notre propre vêtement? La Bible nous dit que, dans la Genèse, que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé Adam et Ève. La Bible nous dit que Dieu a donné cet ordre à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres dans le jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je voudrais faire une petite parenthèse dans la grande parenthèse. Lorsque la Bible nous dit que Dieu a dit à l'homme que tu mangeras de tous les arbres et tu ne mangeras pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas voir dans cet arbre-là un arbre magique, et puis si on le touchait, comme dans les films, hein, il y avait une malédiction, et puis hop, ce fruit-là, on dit souvent une pomme, la pomme a transformé l'homme, et voilà, le péché en fait non. Ce qui s'est passé, c'est le fait que l'homme a désobéi. Tu pourras manger de tous les arbres. Mais le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Dieu avait donné un ordre. Ce qui est bien avec ce grand Dieu-là, c'est que Dieu nous a créés, mais il nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné la volonté. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu veut faire les choses, mais il veut faire les choses avec nous. Dieu n'oblige pas. Donc, l'homme était devant un choix. Soit il obéissait à ce que ce grand Dieu lui demandait, ou soit il faisait autrement. Malheureusement, l'homme a fait autrement. Et il a mangé ce fruit. Souvent on dit c'est une pomme, mais la Bible n'a jamais dit c'était une pomme. Il a mangé ce fruit. Donc il a désobéi à Dieu. Et c'est là que le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est rater le but. Rater en quelque sorte ce que Dieu attend de l'homme. Et depuis ce moment-là, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est là aussi que notre robe s'est salie. La robe spirituelle que nous avions s'est salie à ce moment-là. Et le problème, c'est que nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons avoir une bonne morale. Nous pouvons avoir un bon comportement. Mais la robe restera toujours sale. La Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens, c'est je crois sur le chapitre 15, que Jésus-Christ est appelé le dernier Adam. Et il est appelé le second homme. Il est vrai que souvent, on a du mal à percevoir les choses. Mais le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est quelque chose d'infini. C'est tellement grand, c'est tellement puissant. Il y a tellement de choses à dire. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, en tant qu'un dernier Adam, donc il a pris cette place de l'homme. Et il est allé à la croix. Et lorsqu'il est ressuscité, ce même chapitre nous parle d'un esprit vivifiant. Jésus est un esprit vivifiant. Ça veut dire que Jésus est mort donc, en tant que dernier Adam et il est ressuscité en tant que second homme. Donc là, il y a quelque chose de spirituel qui s'est fait, à savoir que maintenant, et celui qui accepte Jésus, il rentre dans ce processus-là. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que ceux qui ont accepté le Seigneur deviennent une nouvelle créature. Ce que Jésus a fait sur la croix est tellement grand, mais en acceptant Jésus, nous entrons dans une autre dimension, on peut dire, en quelque part. À savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, à Éphésiens 1er, nous avons cette partie de Dieu qui entre en nous, le Saint-Esprit, à savoir que celui qui croit en Jésus reçoit le Saint-Esprit. Donc c'est pour cela que la Bible nous montre que l'homme ne peut pas se justifier lui-même. La Bible nous dit clairement que d'une source suyée, il ne peut sortir une eau douce. Et ça se comprend. Si en amont la source est souillée, en aval, elle sera souillée aussi. Et nous tous, les humains, nous sommes issus d'Adam et Ève. Donc nous avons un dilemme, nous avons un problème. Comment, en quelque sorte, être pur alors que nous sortons d'une source souillée? Et c'est là que Jésus-Christ intervient. Celui qui accepte Jésus-Christ, eh bien, il ne continue pas dans cette relation d'Adam. Mais maintenant, en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Et c'est là... C'est pour cela que l'homme a besoin de Jésus-Christ. Nous avons lu tout à l'heure, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il faut noter aussi que Jésus-Christ n'était pas simplement un homme. Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est pour ça que ce grand Dieu-là peut racheter l'homme. Il a été fait pour nous, rédemption, comme nous l'avons vu. Jésus qui nous sauve, c'est Jésus qui nous transforme. L'homme ne peut pas se transformer lui-même. La Bible nous dit clairement qu'un léopard ne peut pas changer ses taches. Et c'est comme ça. Et c'est le dilemme de l'homme. Nous ne pouvons pas, l'homme de lui-même ne peut pas se changer. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient en lui qui va le changer. Il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, nous avons besoin de Jésus-Christ. L'homme a besoin de Jésus-Christ. Apocalypse 3, le verset 18 nous dit ceci. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. L'homme a besoin d'être revêtu, mais c'est Jésus-Christ qui revêt. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, cet homme, donc, n'honorait pas le roi, montrant son mépris. Mais nous savons que nous avons besoin de Jésus-Christ. Que pouvons-nous dire encore de cet homme? J'ai noté son refus d'honorer le roi l'a conduit au jugement. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui rejette le vêtement de noces. Je me suis dit en lisant cette parabole, cet homme a reçu l'invitation. Les serviteurs du roi sont venus. Ils étaient le long dans les carrefours, sous les rues. Donc ils ont rencontré cet homme. Et certainement ils lui ont dit, voilà, le roi fait un festin, tout est prêt. Mais malheureusement il n'y a pas d'invité parce que ça s'est mal passé avec les invités. Voilà. Donc tout est prêt. Donc maintenant le roi nous a demandé d'aller dans les rues, dans les carrefours. Tous ceux qui sont là, qui veulent venir, venez aux noces. Mais vous devez venir aux noces, mais il y a une condition. C'est de revêtir l'habit de noces donné par le roi. Et je me suis dit, mais cet homme a sans doute dit, mais oui, ça me dit, je veux bien y aller, moi. Mais le problème, c'est que je vais y aller avec mon vêtement. Et sans doute, là, les serviteurs lui ont dit, mais attends, mais le roi a dit, une parenthèse, ce que je dis là n'est pas marqué dans la Bible. Hein. Je réfléchis hein, là-dessus. Hein. On est d'accord. Et sans doute, alors, cet homme a peut-être dit aux serviteurs, non, je veux bien y aller, mais je vais aller avec mon vêtement. Vous avez vu un peu vos vêtements là, mais c'est... Je parle pas de moi, hein, je parle de notre homme. Hein. Vous avez vu un peu mon vêtement et cette robe que j'ai, elle m'a coûté très cher. C'est du fin lin, c'est recherché, ça m'a coûté très cher. Je vois pas pourquoi je n'irai pas avec mon vêtement, pourquoi je dois mettre le vêtement du roi. Non, il faut que tu mettes le vêtement du roi. Non, pas question. Mon vêtement, il est bon. Il est propre, il m'a coûté très cher, c'est du fin lin, ça coûte très cher. Vous pouvez aller dans les magasins et vous allez voir les prix. Ça m'a coûté très cher, donc hors de question. Peut-être ces serviteurs lui ont dit, tu fais une grosse erreur, tu auras des problèmes. Non, c'est pas. Ne vous inquiétez pas, je gère. C'est ce qui est à la mode maintenant. Je gère. Jouer des arguments. En disant ça, je vais ouvrir une parenthèse. Vous allez dire, oh là là, une fois-tu avec ces parenthèses. Hein. Je discutais avec un ami, il y a de cela quelques temps, et je lui témoignais de ma foi en Christ. Et cet homme, bon, il tournait la parole de Dieu en dérision. Alors, à un certain moment, je lui avais dit que, tu sais, un jour, nous tous nous paraîtrons devant ce grand Dieu. Et cet homme avait sorti cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Eh bien, justement, le jour où je serai devant celui-là, eh bien, j'aurai des choses à lui dire. Je lui dirai, voilà, justement, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de misère sur cette terre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ben, justement, le jour où je serai devant lui, j'aurai des choses à lui dire, à celui-là. Et je lui avais sorti, tu sais, ce jour-là, tu ne diras rien. Tu auras la bouche fermée ce jour-là. Je referme la parenthèse. Alors sans doute, cet homme-là, il a sans doute dit pareil. J'ai des arguments. Et puis, t'inquiète, je vais gérer ça. J'ai toujours géré mes affaires, je me suis toujours en sorti. Donc ça va continuer. Et puis il a pris la direction de la salle des noces. Il est parti, il est allé au festin. Lisons ce que la Bible nous dit. Là, c'est ce que la Bible dit. Là, c'est plus. Je vais plus extrapoler là. Alors, le roi entra dans la salle. Et il est étonnant, je fais encore une parenthèse, de voir lorsque le roi est entré dans la salle, le texte aurait pu dire que le roi a félicité les serviteurs, disant, oh là là, vous avez fait du bon boulot. Hein. La salle, impeccable. Tout est beau, tout est bien décoré, tout est joli. Ben non, on ne lit pas ça. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Lorsque le roi est entré, il n'a pas regardé l'état de la salle. Hein. Il n'a pas regardé la déco. Il n'a pas regardé peut-être toutes les fleurs. Non, il n'y avait pas de ballon ce temps-là. Il n'y avait pas de ballon. Donc, il n'a pas regardé, il n'a pas regardé la déco. Ce qui a intéressé le roi, c'était la tenue des invités. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu, un habit de noces. Lorsque le roi est entré, il a regardé comment étaient habillés ceux qui étaient aux noces. Le roi a vu cet homme tout de suite. Et il s'est dirigé vers cet homme-là. Le verset 12. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?»« Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et là, c'est la stupeur. Cet homme eut la bouche fermée. Peut-être qu'il avait donné des arguments, mais là, toute bouche sera fermée devant ce grand Dieu. La Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. La Bible dit que Dieu est trois fois saint. Et donc, à toucher ce beau psaume tout à l'heure, le psaume 113, il nous dit que Dieu abaisse les regards pour regarder les cieux. Il ne baisse pas uniquement pour regarder la terre, mais ce Dieu est tellement grand et tellement au-dessus, il abaisse les regards pour regarder les cieux. Les cieux. Donc Dieu au-dessus de tout ça, c'est quelque chose, ce sont des choses qui nous dépassent. Cet homme a eu la bouche fermée. Et ça me rappelle aussi cet ami, comme je lui avais dit, ce jour-là, tu auras la bouche fermée. Toutes bouches seront fermées devant ce grand Dieu-là. Parce que c'est un Dieu trois fois saint, et c'est un Dieu trois fois saint, et qui est au-dessus. On ne peut pas imaginer la puissance de ce Dieu-là. Déjà, nous voyons aussi des hommes de Dieu même, on regarde lors de la transfiguration dans les évangiles, ces deux disciples qui étaient avec Jésus. On appelle ça la transfiguration, lorsqu'il a changé d'aspect devant eux, ben ces deux disciples-là, ils sont tombés. Et lorsqu'ils ont entendu la voix du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Là, les disciples ont été effrayés. Nous avons Saul de Tarse qui allait persécuter les chrétiens à Jérusalem. Et lorsqu'il a été arrêté sur le chemin de Damas, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il est tombé du cheval. Il était aveugle pendant 3 jours. Jean qui a écrit l'Apocalypse. Lorsqu'il a eu cette vision, mais il était comme mort. Isaïe, malheur à moi qui ai vu le roi de gloire. Je suis pécheur et mes yeux ont vu le roi de gloire. Ces hommes, à la vue de ce grand Dieu-là, ils sont tombés devant la sainteté de Dieu. L'homme ne peut pas tenir devant ce Dieu-là. Et si nous pouvons rester dans la présence de ce Dieu-là, c'est par le sacrifice de Jésus. C'est parce que Jésus nous donne accès à ce grand Dieu-là que nous pouvons rester devant lui. Parce que Dieu le Père voit ce sacrifice de Jésus. Alors, quelle est la vérité morale et religieuse pour ce point-là? Enoch a touché ce verset. Jean 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il nous est dit aussi dans la parole de Dieu que il est réservé à l'homme de mourir une fois, et après quoi vient le jugement. Un jour, nous passerons tous en jugement. Nous serons devant ce grand Dieu-là. Et une seule question nous sera posée en ce jour-là. Qu'as-tu fait du sang de Jésus? Qu'as-tu fait du sacrifice de Jésus? Ce grand roi nous a donné une invitation. Il nous a invités à aller au ciel. Ce qu'il nous demande, c'est de revêtir Jésus, c'est d'accepter Jésus pour notre sauveur personnel. Et qu'avons-nous fait de cette invitation? Notre homme, il a eu la bouche fermée parce qu'il n'avait aucun argument devant ce Dieu-là, devant ce roi-là. Et la Bible nous dit qu'il a été jeté dehors dans les ténèbres du dehors. Donc je crois que, comme Enoch l'a dit ce matin, Dieu nous interpelle. Nous qui connaissons le Seigneur, que nous puissions continuer le chemin. Les choses ne sont pas faciles. Mais nous puissions continuer à avancer. Mais ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur les appelle à la repentance. Disons que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En guise de conclusion, je dirai ceci. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la salle de noces. Nous attendons que le festin commence. Et il est important que chacun de nous soit revêtu de sa robe. Si cela n'est pas encore fait, faisons-le sans tarder, car bientôt le roi fera son entrée dans la salle. Et il est important que chacun de nous, nous soyons trouvés revêtus de cette robe-là. Notre homme a été jeté, il n'a pas pris part au festin. Parce que la Bible nous dit que rien de souillé nous dit pur n'entrera dans son royaume. Et c'est le sang seul de Jésus qui nous purifie de tout péché. Donc que Dieu nous donne à prendre conscience de ces choses, à savoir sans la sanctification, nul ne verra la face de notre Seigneur. Que Dieu nous donne à parfaire cette sanctification en ces temps difficiles. Bientôt les noces vont commencer. Nous allons pouvoir nous réjouir avec ce grand Dieu. Mais pour l'instant, nous sommes encore là, mais nous savons que les choses arriveront bientôt, parce que la parole du Seigneur s'accomplira certainement. Si sa promesse tarde, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.